l'occasion de la première journée pour la mémoire de l'esclavage, RFI organise un festival de cinéma intitulé « Regard sur l'esclavage » du 10 au 13 mai au Musée d'Appert à Paris. La vision de cinéastes de différents horizons sur ce qui est aujourd'hui qualifié de crime contre l'humanité. « Regard sur l'esclavage » du 10 au 13 mai, un événement RFI en partenariat avec Racine au Musée d'Appert et avec le soutien de la mairie de Paris. Programme complet sur RFI.fr.
Si proche, le magazine du voyage et du tourisme.
Ludovic Duno, Olga Samsonov.
Bonjour et haut les cœurs, qu'est-ce que vous voulez? C'est le mois de mai qui rayonne sur Paris et on a plutôt l'esprit optimiste. Alors on félicite la Tunisie pour un bon début d'année. Le ministre du Tourisme estime que 2006 sera au moins aussi bonne que 2005. Le pays compte beaucoup sur le secteur et ces derniers temps, l'ambiance n'était pas forcément aux congratulations, alors bravo. On apprend que South African Airways rejoint la Star Alliance, le plus fort regroupement de compagnies aériennes du monde. C'est la première compagnie africaine à rejoindre ces alliances commerciales si importantes aujourd'hui dans le monde aérien. Cette adhésion ouvre donc encore plus largement les destinations du continent connecté avec l'Afrique du Sud au reste de la planète. Le Sénégal, de son côté, vient de se lancer dans une grande campagne de communication sur 3 ans, soutenue par la Banque mondiale. Une grosse offensive pour trouver de nouveaux touristes et redorer l'image de la destination. Et il y aurait encore une multitude d'infos à vous donner. Mais débrayons un peu et changeons de rythme. Tranquillement, je vais vous faire connaître un site internet qui peut vous être très utile si vous œuvrez dans le tourisme solidaire ou si vous aimez ce genre de voyage, c'est ecoway.org. Et puis je vais vous faire mieux connaître un des meilleurs aéroports d'Europe pour attendre une connexion avec l'Afrique, c'est celui d'Amsterdam. Allez, on décolle.
Alors Ecoway, c'est un site internet de diffusion de l'information sur le tourisme communautaire et écologique où en fait on présente particulièrement tous les projets de tourisme communautaire qu'on peut rencontrer, expertiser, connaître dans le monde entier. C'est vrai qu'on en a plus en Amérique latine parce que le tourisme communautaire est né sur ce continent-là. Ils ont 20 ans d'expérience ici par rapport à l'Afrique où on a à peu près 10 ans d'expérience sur l'Afrique. Et d'autre part, un site d'information à destination donc des voyageurs pour qu'ils trouvent de l'information sur les lieux, mais aussi sur la façon de se comporter et des produits écologiques en voyage.
Voilà donc un site internet nécessaire et à plus d'un titre. Ecoway.org recense donc les projets touristiques animés et gérés par des communautés villageoises ou des groupes associatifs. C'est ce qu'on appelle du tourisme solidaire, quand l'activité touristique vient soutenir une meilleure qualité de vie pour une communauté tout entière et que cette dernière bénéficie pleinement et directement de ses retombées économiques. Ce tourisme solidaire est surtout proposé par des micro-projets isolés un peu partout sur la planète. Et l'un des grands problèmes et des grands enjeux pour la survie de ce tourisme-là, c'est la promotion. Ecoway comble donc une lacune importante. C'est une initiative française créée par des femmes volontaires et soucieuses d'un avenir durable pour notre monde. Comme vient de le dire Anne Vigna, la présidente d'Ecoway, le site fait apparaître avant tout des expériences en Amérique centrale. Parce que le tourisme solidaire y est plus structuré et parce qu'elle vit au Mexique. Mais l'Afrique n'est pas oubliée. On trouve déjà 6 idées de voyages solidaires en Afrique francophone, au Sénégal, au Mali, à Djibouti et en Mauritanie. Et bien sûr, les animatrices d'Ecoway ne veulent pas s'arrêter là. Gros plan donc sur un site qui peut vous être utile, à vous voyageurs et à vous aussi porteurs de projets en Afrique et dans l'océan Indien.
L'objectif, c'est d'être gratuit, facile d'accès, parce qu'il y a un vrai problème de promotion des projets de tourisme communautaire. Ils n'ont pas accès, en fait, très souvent aux moyens de communication, au téléphone, au mail, au site web. Donc, comme ils ne sont jamais dans les guides de voyage, qui sont très peu connus, il fallait donc faire un travail spécifique là-dessus.
En plus, ils n'ont pas beaucoup d'argent pour faire leur promotion non plus.
Et très souvent, en plus, quand les organisations les aident, on les aide sur on va vous aider pour faire vos cabañas, on va vous aider pour vous former. Vous allez avoir des formations sur les guides, sur l'hygiène, sur plein de choses, mais on oublie la promotion. Donc il y a plein de projets qui sont super, des projets de tourisme communautaire très intéressants, mais qui n'ont pas de promotion, et donc ils n'ont pas de touristes qui viennent, et au bout d'un moment, on se décourage sans touristes.
Alors, comment l'association s'y prend, justement, pour repérer ces projets, les évaluer, voir s'ils répondent bien aux critères que vous avez mis en place, et après, qu'ils apparaissent sur le site?
Pour les trouver, ça dépend. En ce moment-là, sur l'Amérique centrale, très souvent, mais même en Afrique, on se sert des associations qui sont sur place, donc des associations écologiques ou sociales, qui, elles, généralement connaissent ces projets-là, nous les indiquent. Nous, on va sur place, on reste 2-3 jours, on fait à la fois les activités avec eux et on remplit donc une grille d'analyse où on a une série de critères qui nous permettent de savoir si c'est un projet communautaire, si en plus ils ont une conscience écologique ou pas. Et à partir de là, on fait comme un espèce de petit reportage. Dans le texte, ce qu'on met d'important, c'est l'histoire du projet, pourquoi cette communauté a fait ce projet, quels sont les problèmes de cette communauté ou de la région, pour que les touristes soient un peu au courant avant qu'ils arrivent. Et puis après, tout, activité, comment y aller, les prix, etc. Mais l'idée, c'est de donner un maximum d'informations aux touristes. Si jamais ils ne parlent pas la langue, s'ils lisent sur le site internet, ils sauront déjà les grandes caractéristiques du projet.
On y dit aussi ce que les communautés veulent faire de leur argent récupéré par le tourisme.
Voilà, généralement les projets communautaires, en plus des salaires et en plus d'investir donc dans leurs aménagements, ils ont généralement un projet un peu social ou écologique. Ça peut être de la réforestation, ça peut être d'aider l'école. Donc ça aussi, bien sûr, on l'indique pour justement le touriste au courant de l'intérêt de ce projet et de l'intérêt de le soutenir.
Alors les critères justement, tourisme communautaire, ça veut dire du tourisme pour des communautés rurales ou indigènes, souvent enclavées, qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui vivent de l'agriculture donc, et qui décident de monter un projet touristique et de le gérer en commun. Mais derrière, c'est pas que ça vos critères.
Alors nous, on fait attention au respect des hommes et des femmes, on fait attention au travail des enfants. On n'a pas eu trop de problèmes avec ça, mais c'est vrai qu'on fait attention à chaque fois. Surtout, nos critères, c'est de voir si le projet de tourisme va pas abîmer d'autres activités type l'agriculture, par exemple, et aussi si les bénéfices sont répartis de façon équitable entre les membres, et si justement il y a un intérêt social ou écologique derrière, parce que ça, c'est très important pour nous, quoi.
Si finalement, il y a peut-être pas un cacique qui, au bout du compte, sous couvert de faire ça pour la communauté, reprend l'argent pour lui, quoi. Un chef de village qui serait mal intentionné.
Voilà, tout ça, on le vérifie. On vérifie la transparence, l'équité, la prise de décision, si c'est prise de décision communautaire ou si c'est 3 personnes dans leur coin qui décident. Mais généralement, comme ces projets ont été aidés par des organisations qui ont mis ça, enfin, ça a été toujours très important, ça, au départ, dans la gestion, comment on va gérer la transparence, etc.
Ils ont été accompagnés.
Ils ont été accompagnés et ça a été le tout début de leur travail, de savoir la structure qu'on va mettre en place. Donc, pour l'instant, on n'a jamais eu ces problèmes, même si on a tout un tas de critères qui vérifient tout ça, quoi.
Alors, sur ecoway.org, il y a beaucoup de sites en Amérique latine, après quelques sites aussi en Asie, et puis finalement, pas tant que ça en Afrique.
Voilà, alors en Afrique, c'est vrai que c'est plus difficile. D'abord, il y a moins de projets. On a beaucoup de tourisme fait par des familles, une famille seule. Donc, pour nous, ça rentre pas dans nos critères pour l'instant. Et je pense pas que ça rentrera dans la suite d'ailleurs. Et puis c'est vrai qu'il y a moins d'informations qui circulent sur l'Afrique. Il y a peut-être moins de projets aussi. Et puis nous, on n'a pas eu pour l'instant tellement de gens. Parce que comme on est tous volontaires dans l'association, on travaille sous la forme du bénévolat. C'est-à-dire qu'on a un voyageur, on va le former à la grille d'analyse, au travail d'enquête. Et il va partir. Donc si on a des gens qui partent demain en Afrique et qui nous proposent de nous aider, on est tout à fait partant.
Mais c'est un appel là.
C'est un appel, ouais. On a fait un travail au Mali, on a des lieux très intéressants au Mali, et puis il y a des lieux qui ne correspondaient pas directement à nos critères, donc on n'a pas pu mettre.
Par exemple, au Mali, vous avez sur le site un restaurant dont on a parlé, nous, dans le magazine, qui est Yérédémé à Mopti, avec toutes ces femmes qui travaillent ensemble dans ce restaurant pour avoir un revenu. Ça, celui-ci, il est indiqué sur ecoway.org.
Voilà, et puis on a le lieu Teriabougou aussi, qui est très intéressant, au niveau justement du travail écologique qui est fait et social. C'est un lieu, on peut dire que c'est un lieu modèle en Afrique, quoi. Un des meilleurs lieux qu'on a.
Donc finalement, pour continuer à remplir ce site, pour qu'il devienne une référence et qu'il soit chargé de tous ces petits projets qui sont comme ça dispersés sur la planète, il vous faut des voyageurs.
Voilà, il nous faut des voyageurs, il nous faut des contacts avec les communautés aussi, parce que il y a des communautés qui nous envoient donc leurs contacts, nous on les garde précieusement, et dès qu'on a quelqu'un qui part, on envoie, parce que c'est difficile d'envoyer quelqu'un sans avoir vraiment zéro contact sur le pays, donc on essaye d'avoir un peu quelques contacts avant pour envoyer un voyageur. Mais oui, il nous faut des voyageurs, pour l'instant oui.
Sur le site, on lit que souvent, ces projets de tourisme solidaire et communautaire sont idéaux pour les jeunes qui n'ont pas beaucoup d'argent, ceux qu'on a longtemps appelés les routards, mais ça ne s'adresse pas qu'à eux.
Non, pas du tout, ça s'adresse vraiment à tout le monde. En général, les gens sont ravis d'aller dans des projets communautaires, il ne faut pas penser que c'est juste on va aider des projets, que ça va être difficile. Au contraire, il y a vraiment un vrai rapport entre l'hôte et le touriste. Et les gens sont ravis, quel que soit l'âge qu'ils ont, le milieu économique dont ils sortent, etc. Donc pas du tout. Simplement, ils sont un peu plus difficiles d'accès, ils font un peu plus de temps. Donc c'est vrai que généralement, les routards ont un peu plus de temps pour y aller. Il y a un petit peu moins de confort, mais il y a beaucoup de gens que ça dérange pas toujours.
Ça sera un profil de clientèle pas idéal, mais de toute façon presque naturel. Donc c'est pour ça que vous vous appuyez sur ce profil-là.
On s'appuie sur ce profil-là, mais en fait, on s'est rendu compte qu'on a beaucoup de... La plupart des gens qui nous contactent ne sont pas en fait des jeunes voyageurs. Ce sont plutôt des familles, des gens à partir de 30-40 ans, voire plus. On a des gens âgés qui nous contactent, qui veulent partir dans ces lieux-là. Donc en fait, c'est vraiment très vaste la population qu'on peut toucher. On touche de plus en plus de gens, il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés et qui cherchent justement de l'information sur ces lieux, qui ont du mal à en trouver. Donc le site est utile, quoi. C'est au moins ça qu'on sait que c'est utile ce qu'on fait.
Ecoway.org donne aussi des astuces et des conseils pour que les voyageurs vivent leurs vacances de manière plus responsable, en faisant les bons gestes, en se comportant bien et en polluant le moins possible. Les fondatrices de ce site de promotion du tourisme solidaire aimeraient désormais se professionnaliser pour être encore plus pertinent et percutant. Elles recherchent des fonds dans ce sens. C'est vrai qu'Ecoway pourrait devenir une plateforme de promotion plus officielle pour un secteur qui a tant besoin de développer cet axe-là. Alors si vous voulez rejoindre les voyageurs testeurs, ou si vous voulez faire connaître votre projet pour qu'il soit évalué et apparaisse peut-être sur le site, écrivez à ecoway.org. Ecoway, vous savez qu'il y a un H, ECHOWAY.org. Et puis pour rester dans le même domaine, sachez que deux guides viennent de sortir quasi simultanément en France sur le tourisme solidaire. Il y a celui du Petit Futé qui propose des idées de séjour dans des structures communautaires, mais aussi des bons plans pour se rendre utile pendant ses vacances en aidant des ONG ou des centres de recherche. Le guide des destinations indigènes de son côté est signé Sylvie Blangy. C'est une consultante reconnue dans le monde de l'écotourisme et du tourisme solidaire. Avec toute une équipe de correspondants vivant dans le monde entier, dont Ecoway, elle présente presque 200 structures touristiques communautaires, des Comores au Guatemala, du Tadjikistan à la Roumanie, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée à l'Éthiopie, bref, un vaste tour du monde sorti aux éditions indigènes. Le groupe Air France KLM a transporté 70 millions de passagers pendant l'exercice 2005-2006 clos au 31 mars. C'est plus de 4 millions supplémentaires par rapport à l'année précédente. Et comme ce grand groupe aérien fait voyager des passagers en provenance ou en direction de l'Europe entière, une bonne partie d'entre eux doit transiter par les plateformes de connexion que sont Roissy Charles de Gaulle à Paris et Schiphol à Amsterdam. Justement, partons à Amsterdam aux Pays-Bas, non pas pour visiter la ville, ça on le fera dans notre second rendez-vous hebdomadaire, mais pour mieux connaître l'aéroport.
L'idée, c'est de faire un aéroport agréable pour tous les types de passagers. Du passager business, du passager économique, vieux, jeune, tous les types. On peut toujours rencontrer quelque chose pour faire ici.
Schiphol est la base principale des avions de KLM, la compagnie néerlandaise rachetée il y a 2 ans désormais par Air France. Les deux compagnies se partagent certaines destinations africaines. Quand Air France emmène des passagers plutôt en Afrique de l'Ouest, KLM est surtout présente en Afrique de l'Est et le groupe veut encore augmenter ses fréquences et ses destinations vers l'Afrique. Ils sont donc nombreux, tous ces passagers, à transiter par l'aéroport de Schiphol pour prendre les gros avions qui volent sur les lignes intercontinentales. Et Schiphol est sûrement un des meilleurs aéroports d'Europe pour attendre entre deux vols, en tout cas 1000 fois mieux Croatie à Paris. Largement ouvert sur les cieux gris-perle de la Hollande, Schiphol est déjà très clair et lumineux. Il n'est pas très grand, on ne fait donc pas des kilomètres d'un avion à l'autre et tout se passe dans le même terminal. Ça, c'est plutôt un bon point. Les restaurants et les bars sont conviviaux et bien décorés. Il existe un terrain de jeu pour les petits-enfants avec une balançoire et des toboggans. 2 salles de repos avec des chaises longues en cuir et de drôles de lits design sont accessibles à tous en cas de grosse fatigue et à une époque où les transits sont de plus en plus fréquents, ces services sont les bienvenus. On trouve également des surprising toilets, alors entendez par là des WC décorés de photos panoramiques et insolites ou alors ornés d'une collection de petites toilettes miniatures en tout genre. Mais les originalités de Schiphol ne s'arrêtent pas là. Il y a aussi un casino. Bon, il n'est pas le seul à avoir un casino. Par contre, il y a quelque chose en plus que les autres aéroports n'ont pas. Marianne Debier travaille à l'aéroport de Schiphol.
On est ici dans le Rijksmuseum. C'est une petite sœur du Rijksmuseum Amsterdam. Le Rijksmuseum Amsterdam, c'est notre Louvre.
Mais à l'aéroport?
À l'aéroport, dans l'aéroport, c'est seulement pour les passagers.
Et alors, des peintures hollandaises, surtout du XVIIe siècle, évidemment, le grand siècle d'or de la peinture hollandaise, c'est ça?
Oui, il y a toujours une exposition permanente de 10 peintures du siècle d'or. Et maintenant, une exposition temporaire que ça s'appelle « Les élèves de Rembrandt ». Mais c'est plus spécial parce que dans juin, viendra une vraie peinture de Rembrandt ici.
L'ambiance est très intime, très calme, comme dans un musée. On ne se croit plus du tout à l'aéroport.
Dans tout le hectique et la dynamique de l'aéroport, de rencontrer un endroit comme ça, c'est relativement petit parce qu'on n'expecte pas que les passagers passent plus que 20 minutes ici. Mais c'est l'idée, non? C'est une dégustation. Quand les passagers ne peuvent pas entrer en Hollande, que peut-être la prochaine fois, on va rester en Amsterdam et visiter le vrai musée.
Et ça a beaucoup de succès?
Oui, on a reçu plus de visitants que les autres musées en Hollande.
Il n'y a aucun autre aéroport dans le monde qui a un musée dans son aéroport?
Oui, pas un vrai musée avec le titre musée. Bien sûr, dans chaque aéroport a des expositions, mais surtout de l'art moderne, que nous avons le vrai stuff.
Les vraies œuvres?
Oui, ça c'est unique.
Et ce petit musée est suspendu dans un genre de module doré en forme de vaisseau spatial au beau milieu du terminal. Si vous allez en Afrique ou ailleurs en transitant par Amsterdam, faites cette petite pause culture, c'est unique. Allez, je vous laisse aller jusqu'au prochain journal sur RFI tranquillement, en musique, avec Padam, le jour se lève, salut à tous.
Ça y est, le jour se lève, écarte d'un geste ma toile de nuage qui recouvre la tête. Ça y est, le jour se lève et toque à ma fenêtre, me tire de mon sommeil. Ça y est, le jour se lève, j'enfile mes baskets, dévale les étages et manque de me fracasser la tête. Ça y est, le jour se lève, salut la concierge, chante un air de chez elle.
voyage@rfi.fr.
Ça y est, le jour se lève, moi j'entame ma balade du côté de la route où le soleil tape. Ça y est, le jour se lève, un papy lui sourit, ses dents qui se gâtent. voile de nuages qui nous recouvre la tête. Ça y est, le jour se lève.